Moteur, putain de merde!
Bonsoir à toutes et à tous, c'est La Lumière dans le Fond, votre rendez-vous cinéma sur Cause Commune. On est toujours là pour parler des films qui sortent, qui font l'actu. Je suis très content aujourd'hui, on a une équipe de grande qualité à chaque fois, mais encore plus cette fois, puisque nous recevons deux petits nouveaux qui ont gagné le concours Viens animer la radio avec nous et qui vont venir parler des deux films qu'on a sélectionnés. Je voulais vous présenter tout de suite, nous avons tout d'abord Dimitri. Bonjour Dimitri.
Bonjour.
Dimitri, toi tu es critique théoricien, membre du FLNP, Front de Libération de Narbonne-Plage.
Exactement, oui.
Tout à fait, à tes côtés nous avons donc Simon qui est aussi un petit nouveau. Bonjour Simon, comment ça va?
Bonjour, ça va très bien.
Simon, toi tu es critique théoricien et auteur de Lara Fabian, Notre Marie Monroe, la biographie de Lara Fabian, qui a posé aussi polémique un petit peu comme l'ouvrage de le film sur Marie Monroe, Blonde, nous en parler aujourd'hui sur Netflix. Mais tu n'es pas là pour parler de ça. Et nous avons aussi Zoé. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Zoé, toi tu es déjà venue, tu as déjà fait une émission, il me semble.
Oui.
Tu avais parlé de quel film, tu te rappelles ou pas?
Le film sur les présidents.
Ah ouais, c'est vrai, avec Jean Dujardin et... Non,
pas celui avec Jean Dujardin.
Le film de Diastème.
Voilà,
yes,
Diastème.
Ce classique qu'on avait adoré.
Exactement, ouais. Il y avait un autre film, je l'ai oublié.
Aïe, 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 ça devait pas être la folie non plus. Oui, c'était...
C'était effacé. Non,
Kervin et Delépine,
voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais c'était tout à fait oubliable.
Aïe, aïe, aïe. Zoé, toi, tu es critique, écrivaine, théoricienne et troisième du championnat régional des sosies de Marine Monroe de la région Nouvelle-Aquitaine.
Merci.
L'émission est toujours réalisée par le super Baptiste. Bonjour, Baptiste.
Bonjour.
Toi, tu
bonsoir,
aussi,
bonsoir.
Bonsoir, tard le soir. Hein. Ça dépend. 19h, c'est un peu à cheval entre les deux. C'est un peu comme février, on peut encore dire bonne année. Et voilà, ça peut pas. Baptiste, toi, tu es réalisateur de nombreux podcasts, dont le magnifique One Two Free, Viva la mélancolie.
Exactement. Pareil, c'est le dimanche.
Le dimanche soir.
À 20h. Ouais.
Baptiste, avant de parler de cinéma, avant de parler grand écran ou petit écran, on va parler polémique, on va parler problème. Les problèmes, comme dirait Julien Tanti dans Les Marseillais, puisque il y a eu conflit sur le chat.
Et oui, ça nous permet de rappeler qu'il y a un chat de la radio Cause Commune, c'est sur le site cause-commune.fm où, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez écrire vos commentaires, vos suggestions et discuter avec les animateurs et animatrices quand ils ont le temps de vous répondre.
Tout à fait, oui, bien sûr. Je suis à la prochaine convention de la radio.
Ouais.
J'aurai mon stand.
Voilà.
Si vous voulez venir m'insulter, alors là, en physique directement, pas derrière un écran. Hein.
Et donc, le chat de la Lumière dans le Fond est assez animé ces derniers temps.
Moi, je découvre en direct je vais le découvrir en même temps que les gens, ce qui se dit.
Voilà, suite à un commentaire de Tsiokolski, qui est assez connu, hein, c'est un fan de cette émission, qui réagissait à la dernière émission sur Novembre et Athéna, et qui écrit « On remerciera le tenancier de l'émission et ses acolytes de la bourgeoisie bohème progressiste francilienne d'assurer gratuitement la promotion, la promotion du service de diffusion, on dit streaming en Macron, Netflix, tandis que les salles de cinéma ferment ou sont en grande difficulté, trois petits points.
Okay, 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 okay.
S'ensuit un débat que je n'ai pas le temps de lire avec User 927 et Olicat, le patron de la radio.
Qu'on salue.
qu'on
les
remercie.
Deux, hein.
Et User, alors après il y en a un autre qui s'appelle User 934 qui a réagi en disant que qu'est-ce qu'il racontait ? Puisque vous avez parlé de Saint-Denis, je m'attendais à ce que vous évoquiez un film qui s'intéresse à la vie dans un quartier populaire, c'est Les Misérables.
Ah oui, bon voilà. D'accord. Ok, ok.
Bon, voilà. Mais en tout cas, la critique de Tsiokolski sur vos choix de parler de films Netflix.
Ouais, bah écoutez, il va adorer l'émission d'aujourd'hui alors, puisqu'on va encore faire un film. Alors c'est vrai que ça pose question, si vous voulez réagir aussi autour de la table, de parler des films Netflix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le cinéma, c'est qu'au cinéma, mais le fait est qu'en fait, il y a beaucoup de réalisateurs intéressants, et intelligents peut-être aussi, qui vont sur Netflix, qui se tournent vers Netflix. Donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne tient pas du tout rigueur de ce cinéma-là et on n'en parle pas, quitte à passer à côté de films intéressants? Ou alors est-ce qu'on met les pieds dans le plat, on met tacle à la gorge du plat, comme diraient certains carrément, et on va parler de ces films-là? Moi, je trouve que c'est bête de se priver de certains films qui sont très intéressants, qui sortent sur Netflix. Après, là, en l'occurrence, c'était Athéna de Romain Gavras, qu'on n'a pas non plus encensé de fou, je crois. Mais et puis en plus là ça s'inscrivait dans la continuité avec Novembre. Après voilà, je veux dire, s'il a pas Netflix, bah désolé, mais bon, c'est il y a deux films dans chaque émission, donc il peut aller direct à la fin. Trotsky là, comment il s'appelle?
Tcholkovsky.
Tcholkovsky. On l'entend beaucoup sur le chat, mais pas dans la vie, hein, Tcholkovsky. On va ouvrir un standard, il va nous appeler.
Sachant que régulièrement, enfin, on pourrait plus régulièrement inviter les gens à aller au cinéma et rentrer dans les salles.
Tout à fait, mais oui, bien sûr, mais ça, c'est, ça, ça coule de source, c'est évident. Nous, on parle de cinéma parce qu'on est passionné de cinéma, donc c'est évident qu'on encourage vivement les gens à aller au cinéma, quoi. Et le cinéma, malheureusement, aujourd'hui, c'est aussi sur Netflix.
Voilà.
Et aïe, aïe. On va commencer tout de suite du coup avec un film Netflix. Donc j'encourage les gens à couper la radio et à récupérer plus tard s'ils détestent Netflix. Puisqu'on va parler de Blonde de Andrew Dominik.
Au revoir, merci.
Yes, quatrième film d'Andrew Dominik. Biopic, s'il en est un, pas vraiment. Adaptation du best-seller du même nom de Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates. Qui est disponible donc sur Netflix. C'est une relecture audacieuse de la trajectoire de Marilyn Monroe, l'une des écoles hollywoodiennes les plus atemporelles qu'on présente plus, de son enfance tumultueuse à son ascension fulgurante et à son histoire d'amour complexe, de Norma Jean à Marilyn. Blonde brouille la frontière entre réalité et fiction pour explorer l'écart de plus en plus important entre sa personnalité publique et la personne qu'elle est dans l'intimité. Alors, on peut dire que c'est un biopic, mais pas vraiment en fait, parce que ça joue un petit peu avec le réel. Il y a des aspects qui sont complètement... comment dire, métaphorique et donc un peu inventé. Il y a des choses dont on n'est pas sûr que ce soit réel. Il y a par exemple le couple, le trouble qu'elle forme avec Charlie Chaplin Jr. et Edgar Robinson Jr. On n'a pas pour l'instant de preuve qu'il ait vraiment existé. Il y a aussi une scène explicite dans les biographes qui dit qu'elle a, enfin dans le film, elle est abusée sexuellement et encore ça, on n'a pas forcément de preuves actuelles. Alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, mais en tout cas, ce n'est pas un élément qui est revenu dans ses biographies, c'est quelque chose qui a été un peu inventé, on va dire, par Joyce Carol Oates, en tout cas Oates, dans son aspect concret, quoi. Et après, bon, le producteur dont il est question, Mr. Z, fondateur et propriétaire de la 20th Century Fox, c'était un peu le Harvey Weinstein de l'époque, donc en soi, c'est pas impossible du tout. Donc le film, il joue beaucoup avec cet aspect métaphorique, avec le ressenti du personnage, et on est tout le temps dans des séquences un peu hallucinées, un peu hallucinatoires du personnage, qui, on le rappelle, du coup, souffrait de problèmes psychologiques, de graves problèmes psychologiques, de paranoïa, d'hallucinations, et du coup, il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu fantasmés, c'est une expérience très particulière. Alors du coup, on l'a pas vécu au cinéma, enfin je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a vu, je sais que c'est passé un peu en salle à Paris. Non, non, personne, tout le monde me dit non de la tête.
Non, nous, on a une grande télé.
Ah, bah, si t'as une grande télé, c'est vrai que tu peux te faire plaisir comme ça. Et c'est une expérience très particulière à vivre. Est-ce que vous avez déjà vu un biopic un peu comme ça, dans ce style-là, qui était... Oui, Zoé.
Bah alors, là, en l'occurrence, c'est revendiqué comme n'étant pas un biopic.
Ouais.
Parce que du coup, le film a créé pas mal de polémiques du fait de l'invention totalement d'épisodes de la vie de Marilyn Monroe qui n'existent pas du tout. Comme notamment cette agression, enfin ce viol au départ, qui aurait soi-disant lancé sa carrière, qui complètement, enfin c'est n'importe quoi, quoi. Et du coup, ça a créé pas mal de polémiques. Et donc, le réalisateur a dit « Ah non, non, mais moi, c'est pas du tout un biopic. Donc, c'est bon, je peux faire ce que je veux, ouais, parce que ça. J'ai dit que c'était pas un biopic. Ouais. » Et j'adapte le roman, du coup, de cette fameuse Carol Oates. Oates. Ouais. Qui elle-même, en fait, dit qu'elle a utilisé la vie de Marilyn Monroe pour faire un film métaphorique sur la féminité. Mmh. Mais en oubliant finalement que Marilyn Monroe était une personne humaine.
Ouais.
Mmh. Et voilà. Est-ce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec le nom des gens? Je ne sais pas.
Ouais, c'est ça. Je en même temps, elle n'a pas d'héritier pour les attaquer, donc vas-y, Simon.
Bah, c'était déjà un petit peu le cas dans le deuxième film de ce même réalisateur-là sur l'assassinat de Jesse James, ouais. Où il reprenait une figure très importante de l'Amérique, de Jesse James, le célèbre bandit.
Le hors-la-loi.
Le hors-la-loi. Et à partir d'éléments factuels, il allait tisser une fiction, mais en rajoutant en effet des choses qui, a priori, ne sont jamais passées, ou alors on n'est pas sûr, etc. Donc c'est quelqu'un qui est déjà... habitué à ce style d'exercice de refictionnaliser une histoire à partir d'éléments réels et à partir de personnages historiques américains.
C'est ça, ouais. Des fois, il part même d'un cliché célèbre. On a des photos célèbres de Marilyn qui restent et en fait, ça raconte un peu ce qui se passe avant ou ce qui se passe après. Donc il part de ses photos. Visuellement, lui, il fait aussi ce truc de partir d'une imagerie célèbre et inventer, tisser quelque chose à partir de là. Dimitri ?
Ce qui est le propre du biopic en soi, parce que c'est aussi une manière un peu sincère de se dire, ok, un biopic, c'est forcément une fiction sur la vie de quelqu'un. Donc on assume plus ou moins à quel point les choses sont vraies ou fausses. Mais au bout du compte, il y a toujours beaucoup d'inventions. Donc faire ça, c'est aussi une manière de dire, bah, les biopics, ce sont toujours des inventions, la mienne en est une comme les autres, quoi. Mais juste, je l'assume peut-être plus que d'autres films.
Après, je pense que ce que disait Zoé, c'est qu'il invente des épisodes particulièrement problématiques. Je pense que de toute façon, dans tous les biopics, il y a des trucs un peu inventés, des trucs un peu romancés, mais là, il met en scène un viol dont on n'a pas vraiment un fait. Il y a cette scène de la relation sexuelle avec JFK aussi, qui est très particulière, très bizarre, dont on ne sait pas si ça s'est constitué, ça s'est passé comme ça. Et il y a aussi un avortement, et on ne sait pas si elle a été... on sait qu'elle a fait deux fausses couches. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de Marilyn Monroe, j'ai bossé l'émission, mais je veux dire, je pense qu'un vrai spécialiste peut-être va péter un plomb sur le chat, mais on sait qu'elle a fait deux fausses couches, mais on ne sait pas si elle a été contrainte d'avorter un petit peu par des studios, quoi. Donc c'est vrai, peut-être c'est des épisodes... très problématiques qui sont un peu inventés. Je pense que c'est ça là, le problème, quoi. Simon.
Alors après, moi, pour expliquer un petit peu dans quel état d'esprit je me suis mis pour quand j'ai regardé Blonde.
Quelle est ta config déjà ? T'es sur un canapé ?
Dimitri l'a dit, en fait, on est en colocation. Donc on a la grande télé, deux enceintes, canapé, on est vraiment bien, quoi.
On a des enceintes, ça c'est important. On a des
enceintes
de son.
Donc on est bien, quoi.
Ok.
Non, moi j'ai commencé Blonde, donc j'en avais entendu parler. En effet, j'avais su que c'était une fausse biographie sur Marilyn Monroe, etc. Et j'ai senti que ça allait me gêner et que j'allais me poser pendant tout le film, est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte, etc. J'étais dans un état d'esprit, au début je voulais pas avoir regardé ce film là parce que je me dis, je savais pas sur quel pied danser avec ce film là donc la manière dont je l'ai pris, c'est je me suis dit, j'oublie complètement que c'est un film sur Marilyn Monroe et que c'est Marilyn Monroe qui y passe, et je vais essayer de me dire c'est une fiction un petit peu. Bon, voilà, après je sais que ça, tu réagiras par rapport à ça, mais je me suis dit bon, bah, et si, regardons ce qu'il va nous proposer sur une configuration, sur un personnage imaginaire. Je me suis pris le parti de me dire que c'était un personnage du coup qui était complètement imaginaire. Et du coup, ça permettait de résoudre un petit peu cette question et de se demander en permanence, est-ce que ça, il a fictionalisé ? Est-ce que c'est vrai ? À quel point c'est vrai ? À quel point on a des éléments, ouais, etc. Pour vraiment me concentrer sur qu'est-ce que veut me raconter ce film-là ? Qu'est-ce qu'il veut chez Andrew Dominique ? Qu'est-ce qu'il essaye de me raconter à travers ce film-là ? Et essayer de dépasser un petit peu ce truc-là de fiction, non-fiction. Voilà. C'est l'état d'esprit dans lequel moi j'ai commencé le film. Donc après, forcément, mon analyse du film que j'en ai faite va différer un petit peu par rapport à ces questions.
Oui.
Moi j'ai trouvé que c'était assez qu'en fait c'était assez hypocrite de la part,
ce que t'as dit, Simon.
Non pas ce que t'as dit, non, pas du tout, mais le postulat de c'est un faux biopic. Par contre le film cherche, enfin je veux dire, il joue tout le temps à nous perdre là-dedans, parce que la ressemblance entre l'actrice et Marilyn Monroe est vraiment confondante. C'est, enfin je veux dire, c'est hyper travaillée. Elle est dans le mimétisme total, ouais, du jeu de Marilyn Monroe, de son timbre de voix, etc. Machin. Donc moi, j'entends... Enfin, pourquoi pas proposer quelque chose de complètement différent à partir d'un personnage réel, sauf que là, en l'occurrence, tout est fait pour faire comme si c'était la vraie Marilyn et que c'était la vraie, mais en vrai, on a raconté plein de trucs qui étaient faux, quoi. Donc, ouais, je trouve que ça, c'est une position qui est un petit peu ambiguë, qui, moi, du coup, fait que j'ai passé vraiment... j'ai pas réussi à regarder le film en entier la première fois. Ah, ça, ouais, m'a trop ennuyé.
T'as fait une pause ?
J'ai fait une pause. Ensuite,
pour aller chercher l'Uber Eats ?
Non, même pas. Non, j'ai fait une pause. Ensuite, je me suis frité avec la personne avec laquelle je regardais parce qu'on n'était pas d'accord.
C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Qui aimait bien ?
Bon, qui était un peu plus... qui était... Moi, ça m'avait vraiment agacé. Okay. Lui, il était genre, bon...
Ok.
Et du coup, j'ai repris le lendemain, mais pareil. Et la première fois, j'étais non-stop sur mon téléphone, sur la page Wikipédia de Marilyn Monroe. Où est-ce qu'on m'emmène, quoi ? Mais okay, là, pour le coup, pour passer sur les salles de cinéma, peut-être que le voir en salle m'aurait un peu plus détaché du côté...
Ah, c'est possible.
Mais moi, c'est ce que je trouve sain, justement, avec cette idée du biopic, parce que moi aussi, j'ai fait exactement la même chose. J'ai regardé le film en entier. Et vu que je savais pas grand-chose de la vie de Marilyn Monroe, après, j'ai lu toute sa page Wikipédia. Quoi.
Ouais.
Et en fait, même si c'est quelque chose qu'on aurait quand même tendance à faire après avoir vu un biopic, on serait pas dans cette position de vigilance par rapport à ce qu'on voit s'il n'y avait pas cette chose assumée qui est « Ok, c'est une histoire de fiction, quoi.
» Mais en fait,
tous les biopics inventent des choses en permanence, puisque les besoins du cinéma ne sont pas les mêmes que la réalité. Donc forcément, les dialogues sont écrits dans un biopic, les acteurs jouent, tout est mis en scène. Donc en soi, quelque part, si on est un peu taqué, on pourrait dire qu'il est pas beaucoup plus mis en scène que n'importe quel autre biopic.
Ah bah moi je suis pas d'accord.
Bah après en fait on est aussi dans une période où on se prend beaucoup de biopics hyper limite pédagogiques, hyper un peu scolaires, genre le film sur Queen qui était sorti, sur Freddie Mercury, après on est celui sur Elton John qui sont vraiment hyper didactique, hyper on explique ce qui se passe, voilà, truc et tout. Il y a très peu d'éléments inventés, quoi. Et je pense que Zoé, ce que tu disais, c'est que là, les éléments inventés, ils sont un peu problématiques, quoi. C'est-à-dire d'inventer un viol, c'est pas anodin, quoi.
Bah oui, oui, et surtout quand on connaît un petit peu la vie tragique de Marilyn Monroe, que ce qu'il a rongé et ce qu'il a un peu détruite, c'est justement tout cette espèce de truc hyper glamour. Enfin, en fait, j'ai l'impression que ce film serait sorti, Marilyn Monroe serait vivante. Enfin, je sais pas comment dire. Disons que j'ai l'impression que la trajectoire de cette actrice est vraiment hyper triste et qu'elle s'est fait un peu bouffer par un système duquel elle était victime. Et j'ai l'impression que ce film participe de ouf à ce système de présenter en fait sa vie comme une pub de parfum qui dure 3 heures, où elle est dépressive non-stop, que son personnage n'évolue pas beaucoup. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé du tout les nuances et la complexité d'un être humain pour un film qui se nomme, enfin, je sais pas, qui décide d'incarner un seul personnage pendant tout le film, quoi. Enfin,
voilà. Simon.
Plusieurs choses par rapport à ça. Déjà, moi, je trouve que par rapport justement à tous ces biopics dont tu parlais, que ce soit celui sur Freddie Mercury, Elton John,
en ce moment, Elvis, qui est sorti il y a pas
longtemps. Elvis aussi. Je ne les ai pas tous vus, ces films.
Clo-Clo, j'adore, moi. Mais film sur Jamie aussi, qui est en préparation. C'est dommage, ça devrait.
Il y a celui de Simone Veil aussi, qui est en ce moment
c'est
au
vrai,
cinéma,
tout à
que
fait,
j'ai pas vu, etc.
Que Baptiste est allé voir en avant-première avec son t-shirt de Simone Veil. Non.
Ça, c'est des films. Généralement, le problème des biopics, moi, je trouve au cinéma, je trouve que c'est un genre qui est quand même souvent pas très intéressant. J'appelle que c'est des films un peu Wikipédia, justement.
Ouais, okay.
C'est des films qui n'ont aucune ambition esthétique, etc., et qui viennent juste en fait illustrer une page Wikipédia et nous raconter factuellement ce qui s'est passé dans la vie de telle ou telle personne. Là, ce que j'ai bien aimé dans ce film-là, c'est justement il s'intéresse en fait très peu à la véracité factuelle. Bon, on a déjà parlé, etc., on va peut-être pas revenir là-dessus, mais en fait, par exemple, Marilyn Monroe, le film commence sur son enfance, puis il y a eu une ellipse de, je sais pas, une dizaine, quinzaine d'années, et hop, elle est déjà une grande star du cinéma, etc.
C'est bizarre, ouais.
Et on s'intéresse pas au pourquoi, au comment, etc. Pareil, elle rencontre un homme, on apprend qu'ils sont mariés, ensuite, ellipse, ils ont divorcé, on n'a pas les détails du divorce, etc. C'est un discours qui est très elliptique sur la vie de cette personne-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé déjà, parce que c'est un film qui cherche complètement à nous perdre dans la temporalité. Il n'y a pas de date qui s'affiche à l'écran comme il y a dans les biopics où on va mettre le nom d'un lieu avec une date, etc.
Pour Il y en a quelques-unes, d'accord, pour moi.
Mais du coup, en tout cas, j'ai pas du tout ressenti cet aspect-là, et j'ai vraiment eu l'impression pendant tout le film d'être un petit peu perdu dans un temps de tornade temporelle. On ne sait pas exactement sur combien d'années ça se passe, on ne sait pas exactement. En tout cas, il essaye de nous perdre pas mal sur des choses comme ça. Donc déjà, ça se dénote des biopics habituels. Et puis ensuite, pour parler un petit peu justement des éléments que l'on voit à l'image. Le film passe de noir et blanc ensuite en couleur. Il y a différentes textures d'images de couleur. Ça change de format d'image, etc. Il y a une image qui est très baroque, qui est très fournie. Il y a énormément de choses différentes. Et ça participe au fait justement d'être complètement perdu, je trouve, dans la vie de Marilyn Monroe et justement dans la vie de Norma Jean plutôt. Et justement, c'est un film qui nous pousse à réfléchir sur autre chose que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui a été la vie de Marilyn Monroe, etc. Et je trouve que c'est un film qui s'intéresse plus à la. Justement, au,
Il y a un petit fou rire parce que j'ai dit 4 tiers, 6-9, au lieu de dire 16-9e. Voilà. Super.
Je suis désolé.
Ce qui se passe sur le plateau. Non, mais moi aussi.
T'es en présence de technicien, là, ça va pas du tout.
C'est moi qui suis un beauf, je suis désolé. Pardon, Simon.
Et du coup, voilà, c'est un film qui, justement, en essayant de nous perdre complètement, de mettre complètement de côté les éléments factuels de la vie de Marilyn Monroe, etc., essaie justement de nous faire en sorte qu'on se concentre vraiment sur quel était son état psychologique. Et pour moi, c'est vraiment un film, avant tout, plus que sur Marilyn Monroe, Norma Jean. Donc, comme je l'ai dit au début, moi, je ne me suis pas du tout intéressé à ça. C'est vraiment un film sur les troubles psychiatriques, sur la maladie psychiatrique, je trouve. Il se trouve qu'il a pris l'exemple de Marilyn Monroe. Pour moi, je m'en fiche complètement, ça aurait pu être n'importe qui, je m'en fiche. Je trouvais que c'était un film qui était intéressant par la forme et par le discours aussi du fond qu'il propose sur comment mettre en scène au cinéma, comment filmer une maladie psychiatrique. Après, il le met dans la peau de Marilyn Monroe et il y a un discours aussi autour d'Hollywood qui se crée. Mais même ça, le discours autour d'Hollywood, de la féminité à Hollywood, c'est même pas l'aspect, moi en tout cas, qui m'a le plus passionné dans le film. Ce qui m'a passionné, c'est bah, comment en fait, on a, comment cette femme a géré ses troubles post-traumatiques toute sa vie. Quoi.
Ouais. Un petit mot du réalisateur justement qui disait que ce qui l'avait motivé, parce que lui il essaie de faire le film depuis les années 2000, depuis que le livre est sorti, il essaie de faire le film, il a galéré pendant des années, à un moment donné ça devait être Naomi Watts, à un moment donné ça devait être plein d'actrices différentes, là il a fait avec Ana de Armas du coup, et il avait dit notamment dans ses envies, dans son pourquoi il voulait faire ce film, il a dit « Pourquoi Marilyn Monroe est-elle la grande icône féminine du XXe siècle ? Pour les hommes, elle est un objet de désir sexuel qui a désespérément besoin d'être secouru. Pour les femmes, elle est une icône, toutes les elle iconise toutes les injustices infligées au féminin. Une sœur, une cendrillon condamnée à vivre parmi les cendres. » J'écris trop mal, faut que j'arrête d'écrire. Donc en gros, l'idée c'était de parler de cette icône-là et de dire un peu ce qui se passe derrière. Aussi, c'est vrai qu'on voit que c'est... En fait, son personnage, il décide jamais en fait. Elle y décide jamais par elle-même. Et du coup, on lui impose un peu tous ses choix, que ce soit des hommes, que ce soit sa relation avec son baseballeur, comment il s'appelle, John DiMaggio.
Ouais.
Et... ou que ce soit c'est même la costumière qui dit que toutes les femmes voudraient être comme elle et tout, elle centralise, c'est un vecteur de tous ces problèmes de l'époque, de tous ces conflits de l'époque, et du coup, ça parle aussi de ça. Et après, moi, je me suis dit, je voulais votre avis, est-ce que Marilyn Monroe, en fin de compte, c'est un personnage de cinéma intéressant, quoi ? Est-ce que vous, quel est votre rapport à Marilyn Monroe ? Est-ce que, en fin de compte, parce que des fois, on a des personnages... qui dans l'image publique, dans l'imagerie publique, ont cet aspect un peu, voilà, elle a un aspect un peu bah, blonde, quoi, c'est-à-dire un peu la bébête dans les films, dans Les Hommes préfèrent les blondes notamment, elle est un peu bébête, dans certains Les Mêmes Shows aussi, et elle a un peu, angélique, quoi, et là, le personnage, on découvre, est comme ça dans le personnel aussi, quoi, dans le privé un petit peu, je trouve qu'il a un truc où c'est la même personne, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la personne médiatique publique est la même dans le privé, Dimitri.
Bah, c'est un peu la question qui se pose dans les biopics où, justement, tout à l'heure, tu parlais de la relation entre la vie privée et la vie qu'on connaît de ces gens-là. Où, en fait, finalement, très souvent, les biopics ne font que refléter dans la vie privée ce qu'on imagine à partir de la vie publique de la personne. Pour Marilyn Monroe, pour ce film-là, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, même dans le jeu de Ana de Armas, en fait... elle est tout le temps un peu en train de singer Marilyn Monroe. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'elle était comme ça tout le temps ou pas ? Est-ce que c'est réaliste à ce point-là ? Ça, c'est une question qui peut être intéressante. Mais même au-delà de ça, finalement, souvent, les biopics ont ce format-là de ascension-déchéance, surtout quand ce sont des stars qui ont mal fini, comme Marilyn Monroe. Et justement, là, comme l'a dit Simon tout à l'heure, le film... prend ce parti pris sans vraiment le prendre, parce qu'il n'y a jamais vraiment d'ascension, parce qu'en fait, elle devient très rapidement célèbre. Il y a un long moment de déchéance à la fin qui, à mon sens, n'est pas le plus intéressant. Mais le film a une forme un peu hybride comme ça, en prenant ce format-là, mais sans jamais vraiment le aller jusqu'au bout. Et où finalement, le film essaye plus de s'intéresser à son personnage, Marilyn Monroe ou pas, mais sur son état psychologique que vraiment sur cette question de l'icône, alors que même en même temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, à tous les moments, c'est Marilyn Monroe, quoi, par l'imagerie, par la manière dont elle parle, par la manière dont elle joue.
Et je trouve justement marrant que tu parles d'ascension et de descente, parce que pour moi, je l'ai pas trop... Enfin, factuellement, c'est ça, mais je trouve que son personnage à elle est assez linéaire.
Ouais.
Et que enfin, je l'ai pas senti sur une ascension à un moment, genre elle fait, enfin c'est même pas critiqué. Oui, voilà ça. Vrai. Psychologiquement, c'est la détresse du début à la fin, quoi.
C'est vrai. Mm-hmm.
Mais c'est là où justement le film a une forme un peu hybride, parce que
ouais, c'est clair.
Il y a quand même, elle devient connue très rapidement, mais après il y a une légère ascension, elle devient de plus en plus connue. Même à un moment, elle s'assume un peu plus comme elle-même, justement dans ce moment de
oui, quand
elle rencontre
Arthur Miller,
etc.
Ah ouais.
Justement, quand elle rencontre Arthur Miller, où comme tu l'as dit, c'est le seul moment où elle devient un peu actrice de sa vie, parce que sinon tout le reste du temps, elle ne fait que soit faire ce qu'on lui dit. Même à ce moment-là, en fait, c'est qu'elle a dit ah oui, je voudrais bien aller à New York, et quelqu'un lui dit bah vas-y, fais-le. Donc elle a vraiment besoin toujours des autres pour avancer.
Ouais, de la validation.
Elle n'est jamais actrice de ça.
Tout à fait, ouais. Il y a un truc qui était bien trouvé, moi, que j'ai remarqué, c'est à un moment donné, son mari, John DiMaggio, lui dit qu'il veut la protéger. En même temps qu'il dit qu'il va la protéger, il a la main, il a sa main autour du cou, quoi. Et il étouffe un petit peu. Donc, en fait, c'est cette idée que c'est ce personnage tellement un peu fragile dans la vision publique qu'elle a, que la vision publique embraye sur sa vie privée et que, du coup, les hommes veulent la protéger aussi dans le privé, quoi. Et là...
Justement, il y a un plan très intéressant dans le film qui est le moment où elle est avec Arthur Miller, où ils sont dans la cuisine, et le plan se rapproche.
Qui est en plus un plan en scope à ce moment-là.
Voilà.
Un des rares
petit
plans
à petit, et à chaque fois, elle est dans le cadre, et Arthur Miller pénètre dans le cadre à nouveau, à chaque fois, jusqu'à ce qu'on soit vraiment proche d'elle. Et qui reflète un peu, effectivement, cette tendance du film de montrer que, en fait, elle n'est jamais toute seule, quoi.
Tout à fait, elle est tout le temps surveillée. Baptiste, toi, t'es trop fan de Marilyn Monroe ou pas?
Non.
C'est vrai que notre génération, ça, c'est une figure hyper connue, peut-être un peu ringarde aussi par moments.
Moi,
moment,
elle était sur tous les, comment ça s'appelle, les paravents de mes copines. En ouais. stickers, dans toutes les chambres de jeunes filles. Bah ouais, grave, c'était genre sur les agendas au collège.
C'est vrai.
Et justement, ça, je trouve ça génial de se dire ça, que c'est devenu une sorte d'icône pop. Ouais. Au-delà d'être juste l'icône sexualisée qu'elle a pu être dans les années 50-60, aujourd'hui, Marilyn Monroe, ça fait partie, bon, le plan avec la jupe sur
ouais,
la bouche de métro,
réflexion,
etc.
Ouais.
C'est devenu une icône pop, et je trouve ça extrêmement glauque que cette personne-là qui a été, alors difficile à dire encore une fois, mais a priori complètement manipulée toute sa vie, qui a, se pose la question vraiment du libre-arbitre, qu'on l'a érigée, nous aussi, puisqu'on en est encore responsable, vu que comme tu viens de le dire, bah, on peut porter des stickers de Marilyn Monroe sur son cadre, etc. Alors que c'est une personne qui, a priori, bah, avait des troubles psychologiques et psychiatriques extrêmement forts, qui était,
tout à fait, ouais.
qui était vraiment quelqu'un qui avait besoin d'aide, qui n'a jamais été aidé cliniquement parlant.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est une icône pop, etc. Et moi, je trouve ça extrêmement glauque. Et ce que j'ai bien aimé dans le film, je trouve que le film pose une sorte de réflexion sur notre regard par rapport à ça, où on se dit, bah, les icônes qui existent, c'est aussi nous qui les créons. Et faut faire, enfin, je pense qu'il
y a un humain derrière, quoi.
Un humain derrière. Et après, pour revenir à ce que vous disiez, que au fait que elle a jamais vraiment de libre arbitre dans le film là, dans quelques points dans le film, je me pose la question, est-ce que on aurait bien aimé montrer une Norma Jean ou un personnage qui a un libre arbitre, qui profite justement des situations difficiles dans elle, parce que ça nous arrangerait dans l'idée qu'on se fait de Marilyn Monroe, ou dans
forte.
L'idée qu'on se fait voilà, que les femmes, elles n'étaient pas, etc. Ou dans l'idée tout simplement qu'on se fait d'un personnage de cinéma, c'est-à-dire qu'il doit avoir une évolution, etc. Moi, je ne le trouve pas, parce que justement, quelqu'un qui... Alors après, évidemment, inutile de le préciser, je ne suis pas du tout un spécialiste et je ne suis pas du tout psychiatre, etc. Mais quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, etc., qui est... alors, je me suis renseigné aussi un petit peu pour préparer l'émission. A priori, c'est quelqu'un qui était dans la vraie vie, Marilyn Monroe, qui avait des troubles de dissociation de personnalité et un trouble bipolaire. Mais c'est des gens qui, en fait, n'ont pas d'évolution telle que nous, on en attend dans un cinéma classique ou de personnages classiques. Et ce sont des gens, justement, qui, bah, toute leur vie, vont... c'est l'effet de rumination, c'est-à-dire qu'ils vont tourner autour des mêmes problématiques pendant toute leur vie. On parlait aussi de la répétition, en off, du fait qu'elle appelle tous les hommes de pouvoir dans sa vie daddy, et que c'est parfois un peu trop présent, et que
elle
appelle tout le temps père, etc. Ouais, mais en fait, ça, c'est quelque chose qui, au cinéma, va être peut-être un petit peu énervant parce que c'est répétitif, mais aussi c'est réaliste dans le sens où, bah, ces traumatismes-là, les personnes atteintes de
parce qu'elle
n'a
pas connu son père, on rappelle juste.
Elle n'a pas connu son père, et du coup, toutes les figures
masculine.
De pouvoir masculines de pouvoir, elle va les interpréter. Enfin,
oui, elle passe sa vie à chercher son père, quoi.
C'est ça. Et
aussi
voilà.
chercher sa mère par son lien avec la maternité, etc.
Ouais, tout à fait. Mais voilà, c'est en effet, en termes de purement de personnage de cinéma, elle n'a pas d'évolution, elle reste complètement soumise, etc. Mais moi, je me demande, bah, qu'est-ce que ça dit du coup? Bah, je pense que Andrew Dominik est conscient de cette chose-là, mais qu'est-ce qu'il essaie de nous dire justement en montrant un personnage sur un film de près de 3 heures qui n'évolue pas, qui est constamment un peu sur la touche? Soit on s'arrête là, soit on se demande, bah, qu'est-ce que ça peut créer et qu'est-ce que ça crée? Et moi, j'ai trouvé ça justement intéressant, cette espèce d'annihilation permanente du personnage.
Qu'est-ce que tu as voulu dire, Andrew Dominik?
On te retrouvera, Dominik.
Appelle-nous, dis-nous ce que tu as voulu dire. Zoé, tu voulais rajouter quelque chose ou... Non, pas spécialement, oui.
Bah, si, non, c'était que le film, je trouvais... Mais je suis assez d'accord avec toi quand même. C'est assez singulier. Enfin, de toute façon, le film est quand même, on peut le dire, hyper singulier, formellement. Enfin,
bien sûr, c'est une expérience.
Ouais, vraiment, une grosse expérience.
C'est un film Netflix, donc.
Ouais, et c'est une expérience qui aurait été aussi bien. Tu vois, c'est vrai qu'on parlait
c'est
de ça, mais ça aurait été mieux de le voir en salle. Bien sûr,
là,
comme Athéna,
c'est
ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit.
et non, ouais, je trouvais que le film, là, moi, ça m'aurait peut-être davantage intéressé. Au lieu d'un film qui en fait, qui fait de Marilyn Monroe un martyr, quoi, de la condition féminine, bon, ce qu'on sait déjà, mais j'aurais peut-être plus, ça m'aurait plus intéressé d'avoir des situations présentées de façon un peu plus complexe et un peu moins, je sais pas comment dire.
Appuyé ou
peu moins.
C'est pas un martyr, enfin ça n'existe pas les
peu,
martyrs, quoi.
Ouais.
C'est ça, l'essentialiser, en faire une icône, etc. Moi, ça m'aurait davantage intéressé de l'avoir comme quelqu'un de pas quelqu'un de normal, mais genre de comprendre, d'être dans le, dans une approche un peu plus
Nuancée,
humble.
Quoi.
Et moins tomber dans des trucs supra glamour. Parce que le film est quand même, enfin, c'est un espèce de un panoramique de tous les effets possibles avec une caméra.
Ouais.
Et du son.
C'est vrai.
Ah non, mais vraiment, je veux dire, on a tout, quoi. Les trucs où c'est tout flou, on voit rien. Moment où la caméra est accrochée sur le personnage pour montrer la folie. Vraiment,
il a bien lu le mode d'emploi de la caméra.
Il a vraiment...
Je vais tout utiliser.
Là, c'est un beau panorama. Bon, moi, je trouvais que ça, c'est, par exemple, ça ne m'apportait pas grand-chose de plus. Ça, j'y voyais surtout un délire glamour du réel, quoi.
Ouais.
Je me suis dit, est-ce que vraiment... Alors, le noir et blanc, le passage noir et blanc couleur, OK, pourquoi pas, ça, bon. Mais bon, j'ai trouvé qu'il y avait quand même... Bon.
Enfin.
Ça manquait un petit peu de sobriété pour me plaire vraiment, voilà.
Baptiste, allais dire, toi, du coup, est-ce que toi, t'as Netflix ou pas ?
Non,
oui,
je déteste.
Oui, ben oui.
Tout le monde l'a, Netflix, merde, ouais. Alors.
Mais moi, moi, j'adore les biopics.
Ah, il y a eu
beaucoup de critiques aussi. Ouais, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont blessé.
Et ben moi, j'aime bien, d'accord. Voilà.
Mais en fait, j'ai jamais ressenti un effet Wikipédia. Alors, je sais pas si j'ai regardé les bons, les mauvais biopics. Je sais qu'il y en a qui sont nuls, genre Eiffel ou des trucs comme ça.
Eiffel. Ah, le
Eiffel
truc
avec
sur
Romain
Eiffel. Ok, ouais.
Mais moi, j'ai vu des très très bons biopics, genre Dalida, excellent,
ah, j'ai
incroyable.
Pas vu celui-là.
Raging Bull, c'était de Scorsese.
Ouais.
Les,
ouais, c'est un biopic, mais c'est un super film aussi, quoi.
Et ben, en fait, je sais pas, c'est assez large en fait, un biopic comme genre de cinématographique. Mais moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas le prendre plus que permettre à des gens de découvrir un artiste ou une personnalité célèbre qui n'est pas forcément d'y apprendre pour ceux qui le connaissent, ils n'apprendront rien de plus forcément, mais d'inviter à découvrir, voilà, lui, il a existé ou elle a existé.
Ouais.
Et c'est très bien.
C'est très bien. Moi,
j'aime
tout le prendre
plaisir à revoir des choses qu'on connaît déjà. Des
bien sûr,
ouais,
tout bien. À fait.
J'ai l'impression que c'est la première raison pour laquelle on fait des biopics, avant faire découvrir à d'autres.
Il y a aussi des biopics qui sont faits, je pense, un petit peu pour relancer un peu des ventes sur des chanteurs, des trucs et tout.
Bien,
genre,
sûr.
Bah,
bien sûr.
Le film sur Freddie Mercury, je pense que Queen, ça n'a jamais été autant écouté depuis qu'il est mort. Quoi. Je veux dire, franchement, le Bohemian Rhapsody, c'est partout, quoi, depuis que c'est sorti.
Bah ouais, mais tu vois, moi, je voulais pas aller le voir et tout, on m'a forcé.
Voilà.
J'ai été hyper surpris, j'ai appris plein de trucs sur cette épopée, et voilà, j'en suis sorti content, quoi.
Mais pour le coup, quelqu'un qui fait des excellents biopics et qui maintenant en a fait presque une marque de fabrique, c'est Pablo Larraine, qui depuis quelques temps a fait Spencer sur Netflix, je crois.
Ouais, non, sur Amazon Prime.
Sur Amazon Prime, oh putain.
On en avait parlé.
Encore pire que Netflix. Et qui avait fait aussi la même chose sur Jackie, qui avait fait la même chose sur Neruda, sur No aussi. Enfin,
Neruda, incroyable.
C'était incroyable. Et moi, c'est des biopics. Je trouve que c'est un écueil des biopics. Je dis pas que tous les biopics sont chiants et sont nuls, mais un des écueils, en tout cas, moi, j'aime, voilà, comme je disais, de biopics Wikipédia. Voilà, Pablo Larraine, c'est quelqu'un qui est un peu maître dans l'art de justement. Du pied de nez par rapport à ça, quoi. Qui,
ouais. Ah, on en avait parlé de Spencer, mais après, c'est vrai que c'est pas parce que dans un film, il y a une figure publique connue que c'est forcément un biopic aussi. Je pense que biopic, c'est un procédé particulier, c'est une narratologie particulière. On a vu avec Elvis, c'est vraiment Splendeur et Décadence. Enfin, vraiment, Elvis, on a son enfance jusqu'à sa mort. Freddie Mercury, je crois que ça suit aussi une grosse partie de sa vie, je l'ai pas vu, mais. Et donc, il y a plusieurs. Il y a le biopic, pour moi, je pense que c'est vraiment. Ça retrace la carrière de trucs et tout, comment ça a commencé, comment machin. Et après, je pense qu'il y a des films qui prennent une figure, une personnalité publique et qui s'en affranchissent, ou alors qui prennent le cas de Spencer, en tout cas, c'était sur Diana, et c'était un lieu unique dans cette maison de campagne, et on la suivait, donc on n'avait pas sa vie, sa mort, tout ça et tout. Donc je pense qu'aussi, il y a cet aspect-là. Il y a des films biographiques, on va dire, ou en tout cas, et puis après, il y a des films qui prennent une personnalité publique et qui parlent d'un épisode marquant de leur vie et qui des fois fantasment complètement un récit, une histoire, etc.
Ce que vous dit pas Charles, c'est qu'on planche sur le scénario d'un biopic de Balkany depuis maintenant
c'est
quelques
vrai,
mois.
C'est vrai, tout à fait. J'en dis déjà trop. Mais oui, c'est vrai, c'est
à
vrai.
À sortir prochainement. Dans
les prochaines... Ça, pour le coup, ça va être intéressant. Blonde sur Netflix de Andrew Dominik. On fait une petite pause, une petite coupure musicale. On se retrouve tout de suite sur Cause Commune, la lumière dans le fond pour parler cinéma, toujours sur petit, sur grand écran, sur tous les écrans.
Cause Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Have you ever loved? We should go again. Don't be down when it's over, baby. Yeah. I'll be.
man? Oh man. Have you ever loved? Would you go again? Don't be down when it's over, baby. Yeah. I'll be your man.
C'était Joji avec Your Man sur La Lumière dans le Fond, sur Cause Commune. On parle de cinéma. Tu veux mettre une petite ambiance? Vas-y. Hein. On parle de cinéma toujours. On a parlé de Blonde d'Andrew Dominik. On en a parlé longtemps. On aura un petit peu moins de temps pour parler des Harkis de Philippe Faucon. Je vais tout de suite l'introduire très très vite pour qu'on puisse en parler le plus possible. Alors, Les Harkis de Philippe Faucon, c'est le 9e film de Philippe Faucon qui est écrit avec sa femme, notamment Yasmina Nini Faucon et Samir Benyala. C'est un réalisateur qui parle beaucoup de la question de la relation entre la France et l'Algérie, de la question de l'immigration, de l'identité, de l'intégration. Et là, il est question des Harkis, donc un phénomène historique qui s'est déroulé pendant la guerre d'Algérie, donc de 59 à... Baptiste, tu l'as ?
62.
62. Ouais, ouais. Quoi ?
Attends, t'as dit, c'est quoi ta première date ?
59.
59 ?
Oui. Bah, le film commence en 59. Le film commence en 59.
La guerre, la guerre commence bien avant.
Oui, dans les têtes. Fin des années 50, début des années 60, la guerre d'Algérie se prolonge. Salah Kaddour et d'autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l'armée française en tant que harkis. À leur tête, le lieutenant Pascal. L'issue du conflit laisse prévoir l'indépendance prochaine de l'Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal s'oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité. Alors les harkis, du coup, ils n'en parlent pas trop dans le synopsis, mais c'est des soldats algériens qui luttaient aux côtés des Français contre les indépendantistes algériens. Baptiste, tu vas en parler un peu. Tu connais, toi qui es un spécialiste de l'histoire et de l'Algérie.
De l'histoire entière, universelle, de l'humanité.
Toute oui. L'histoire, du début
non, mais
à
tu
la fin.
Tu l'as très bien présenté. Hein,
c'est gentil, merci.
Des Algériens recrutés par l'armée française pour combattre les indépendantistes algériens.
Tout à fait. C'était à Cannes, tu l'as pas vu à Cannes?
Non. Oh. J'ai tout raté à Cannes.
Tout raté toute ma vie. On va bientôt arriver à court des films qu'on pourra dire bah, c'était à Cannes, on l'a pas vu et tout. Je crois que là, on est sur la fin. Là. C'était présenté à Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Donc, c'est un film... Là, pour le coup, on est complètement à l'opposé de Blonde, ne serait-ce bon, déjà au niveau de l'histoire, mais en plus au niveau du procédé narratologique. C'est-à-dire que là, on est dans un truc hyper réaliste. On a donc les films de Philippe Faucon, c'est toujours comme ça. Philippe Faucon, qui était César du meilleur film avec Fatima, qui était sorti en 2016, je crois. Et lui, c'est plan moyen, la plupart du temps, c'est-à-dire au niveau plan poitrine, taille. Pas de musique, pas d'effet, une chronologie,
linéaire.
Linéaire, merci Dimitri. Et un film relativement court de 1h22, ressenti pour ma part 3h20. Non, je rigole. Non, mais c'est laborieux. Enfin, c'est-à-dire que c'est une expérience de cinéma complètement différente pour le coup de Blonde ou de beaucoup de films qui est vraiment au plus proche du réel, quoi.
Après, pour la narration linéaire, il y a quand même justement, comme dans Blonde, si on veut faire des parallèles, il y a beaucoup d'ellipses justement entre ouais, les différents moments du vrai. Film, même avec des dates de jours, etc., qui n'ont en fait pas tellement d'intérêt en soi la plupart du temps, mais qui justement donnent un rythme un peu particulier au film qui est justement assez court et qui en plus ne prend pas de temps mort, quoi.
Ouais. Tout à fait, ouais, on est sur Zoé.
Bah, en fait, le film, il se concentre majoritairement sur trois temps, donc 59, 62, 64, il me semble, qui correspondent plus ou moins à un arc qui est un tout petit peu flou pour moi au début et qui se clarifie au fur et à mesure. Mais le film commence quand l'armée française entame des pourparlers avec le FLN. Et du coup, le chef, je ne sais pas quel est son grade, Lieutenant Pascal.
Yes.
Le soldat français arrive en Algérie pour justement...
Tu as aussi ma classe sur Call of Duty, lieutenant.
pour mettre un peu à l'écart les harkis de cette nouvelle-là. Ouais, ouais. C'est un peu ce qui me
semblait. C'est vrai, ouais. Physiquement, il les éloigne des villages où il y a les rumeurs déjà qu'il y a un pourparler.
C'est ça. Et oui, et en effet, le film a une forme, moi je trouve pas vraiment linéaire, parce que oui, ça va d'un point A à un point B, mais il y a beaucoup d'ellipses, et je trouve, moi ça m'a fait penser à une sorte de... Comme si en fait on suivait, parce qu'en plus le film est un film un peu choral, où il n'y a pas vraiment un seul personnage.
C'est un ensemble de personnages,
Il y a deux groupes majoritairement, et quatre figures qui se dégagent, dont le lieutenant Pascal et trois autres harkis. Mais dont un qui était ancien du FLN, qui s'est fait torturer, qui s'est ensuite revenu dans les... Enfin, qui est ensuite intégré en tant que harki, voilà, pour survivre.
Ouais.
Et bref, et on dirait, la forme du film m'a fait penser à une sorte de carnet de notes, de souvenirs de ces soldats qui parleraient de choses hyper concises sur leur ressenti de la guerre, etc. Mais sans du tout s'étendre sur... des trucs hyper dramatisés ou avec plein de suspense, etc., que je trouvais ce que j'ai adoré, quoi, dans ce film.
Simon.
Oui, pour me dire sur ça, moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film met à l'écart, en fait, tout enjeu dramatique et il met à l'écart même tout l'aspect spectaculaire que pourrait y avoir dans le film. Tu l'as dit, il n'y a pas de musique, il y a un montage aussi qui est assez sec, il y a très peu de plans, c'est assez peu découpé. Il y a une sorte d'épuration dans la forme, dans la narration... qui fait que ça peut paraître un peu déroutant. Et en effet, du coup, c'est cette volonté de mettre à l'écart tout type d'artifice, d'enjeux narratifs, d'enjeux dramatiques, etc. Ça fait qu'on va se concentrer vraiment sur l'aspect historique de ce qui s'est passé. Et en effet, oui, c'est perturbant, mais c'est étrangement très touchant. J'avais lu certaines critiques qui disaient que justement... faire appel justement, enfin cette mise à l'écart en fait totale mettait aussi à l'écart toute émotion. C'est une critique qui revient assez régulièrement, que du coup on a du mal à s'attacher au personnage, etc. Et étrangement, moi, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Moi, c'est un film qui m'a fait penser un peu au, dans le style à Robert Bresson, qui a une sorte d'épure énorme, que ce soit dans chaque plan, dans le montage, dans le jeu des acteurs aussi, qui est complètement antidramatique. Etc., mais qui du coup arrive à trouver un certain point, un certain juste milieu dans l'épuration qui rend finalement très touchant ces personnages et très vivant paradoxalement.
Ouais, parce qu'il faut dire que du coup les harkis ont été abandonnés complètement par le gouvernement français et du coup ils ont été laissés ils sont retournés dans leur village natif en étant vus comme des ennemis, quoi, de la nation d'Algérie, la nouvelle nation d'Algérie. Dimitri.
Et même ce côté antispectaculaire, on le retrouve quand même dans les scènes de guerre. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup, mais même ces scènes de guerre-là, qui, je pense, aussi pour des raisons de budget, ne sont pas grotesques.
Bon, il doit avoir de l'argent maintenant, Philippe Faucon, il a un César. Quand même, il doit avoir un peu d'argent.
Le film a été fait avec 4 ou 5 millions, je pense, quand même.
Ah, oui, quand même.
On veut au moins 3.
Ok, t'es en train de négocier là ou quoi? Allez, 2, on n'en parle plus.
Non, mais au moins 3 millions.
Étonnant, hein. Je crois que c'était beaucoup moins. Ouais,
mais ouais. En tout cas, c'est vrai qu'il y a, les scènes de guerre qui sont montrées sont anti-spectaculaires, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont très rapides, parfois elles sont même totalement montrées en off, évoquées que par le son. Enfin, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on sent que c'est pas un film de guerre, quoi. C'est un film sur qu'est-ce qu'on a fait des harkis, quoi.
Tout à fait, ouais.
Et moi, j'ai trouvé que c'était pure formelle de très peu de spectaculaire, etc. Comme tu disais, enfin moi, le film m'a bouleversée. Parce que justement, ça laisse tellement de place à faire... En fait, c'est des... Je sais pas comment dire. On suit les choses de façon hyper factuelle. Moi, j'ai l'impression d'avoir enfin compris vraiment le dilemme qui a travaillé les harkis, qui jusque-là avait été un flou dans mon parcours scolaire. Je suis là genre, ouais, les harkis, franchement, j'avoue, j'ai jamais trop compris. Ça fait partie du flou autour de la guerre d'Algérie. Et là, c'était
limpide. C'est un peu honteux, faut dire, pour le gouvernement français. Quoi.
De quoi ?
C'est un peu honteux pour le gouvernement français.
Non, mais oui, c'est carrément une volonté. Hein. C'est
un peu la honte, quoi. Moi, je me rappelle même pas l'avoir fait dans mon cursus scolaire. Ouais.
Bah oui, enfin, en tout cas, voilà. Moi, j'ai vraiment découvert... Enfin, j'ai l'impression de l'avoir découvert, mais aussi parce que les dilemmes des personnages, des hommes et tout, étaient tellement forts et... Je sais pas comment dire, en fait, c'est des dilemmes qui auraient été traités au premier degré, ça aurait été complètement lourd et hyper m'as-tu vu ou des choses comme ça. Et là, le film donne tellement de place à faire exister leur intériorité, le silence dans lequel se sont murés un peu ces hommes-là, que ça rend le film franchement, vraiment incroyable.
Bouleversifiant.
Bouleversifiant.
Les inconnus. Qui commence, les gars ?
Justement, moi, je trouve que... Le problème à ce niveau-là, c'est que vu qu'il y a quand même beaucoup de personnages, que le film dure quand même qu'une heure et demie, on a quand même peu de temps pour s'attacher à ces gens. Et au contraire, moi, j'étais très peu touché par leur histoire.
Ouh là là, t'as un cœur de pierre, toi, en même temps, un peu.
C'est vrai. Mais au-delà de ça, j'étais quand même très peu touché par leur histoire, parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, je les connais pas, ils sont trop, j'arrive pas à m'attacher l'un entre eux, etc. Mmh. Et aussi, le film a un peu une volonté presque pédagogique de dire, OK, voilà ce qui s'est passé... Sans rien d'autre, quoi. Et du coup, par exemple, le début du film commence avec une introduction, carrément, enfin, quasiment une scène d'introduction par personnage, en disant, bah voilà, lui, il s'est engagé parce qu'il n'avait plus d'argent, lui s'est engagé parce que son frère est mort et que son père veut qu'on soutienne la France, etc. Et du coup, le film, au bout d'un moment, devient purement didactique. Et en ajoutant à cela le fait que, ils sont nombreux, on ne passe pas beaucoup de temps avec eux, j'avais beaucoup de mal à être en empathie avec eux, quoi.
Je suis d'accord qu'on peut reprocher au film une sorte de petite... un petit côté pédagogique, didactique, qui, moi, m'a pas trop gêné. Je trouvais, par exemple, qu'il y avait plein de petites touches ultra touchantes qui rajoutaient, mais dans une finesse de dingue. Genre, par exemple, les plans avec les enfants, où il y a plusieurs fois où on voit les harkis en rapport avec leurs enfants. Juste, il y a une petite choupette qui est trop mimi, en plus. Non, mais c'est vrai.
Trop mimes,
elle
quoi.
Elle est trop mimes.
Je m'en rappelle.
Ouais,
avec
touché,
des grands...
Pas du tout mimes.
Avec ses grands yeux et tout. Et bref, et je trouve que ça fait partie des petites touches que tu attendrais pas particulièrement dans quelque chose de didactique. Ou voilà, ça fait partie des petits extras qui ont nourri, pour moi, les personnages. Mais je comprends en effet que... Voilà, c'est sûr qu'on est un peu à distance et tout. En fait, je pense que le film aurait pu gagner à être plus long, quoi. Mmh.
C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, la seule chose qui manque, c'est de passer du temps avec ces gens-là. Parce qu'en fait, effectivement, le film a quand même une approche assez humaine avec ces gens-là. On ne montre pas des soldats, on nous montre des êtres humains qui s'engagent pour certaines raisons, etc. Et qui vivent leur vie et qui, justement, se retrouvent un peu désemparés que... en fait, on les abandonne totalement en leur disant, rentrez chez vous, on vous filera de la thune, quoi. Et la seule chose qui manquait, c'était de passer un peu de temps avec eux pour apprendre à bien les connaître chacun et développer ça, quoi. Finalement, le seul avec qui j'avais le plus d'empathie, c'est celui qui trahit, puisqu'il arrive plus au milieu du film, donc on est plus installé dans le film, on nous parle un peu plus de son histoire, etc.
Oui, je suis d'accord. Et au départ, il y a un peu quelque chose d'expédié sur le départ des soldats, la rencontre avec la mère, etc., où on expose quand même de façon un petit peu... peut-être un peu trop clair, donc la mère qui... Enfin, les personnages expliquent un petit peu « Ah, tu ne devrais pas t'engager parce que la France, blablabla. » Bon, c'est vrai que c'est pas l'approche la plus intime qu'on puisse avoir avec les persos.
Même c'est dans marrant, on a... Pardon, vas-y Simon, je suis désolé.
Et même dans un souci de... Justement, il essaye à tout prix, Philippe Faucon, tout manichéisme. Donc il y a en effet cet aspect très didactique où chaque Algérien a une raison différente de s'engager. Ouais. Comme ça, on comprend bien toute la géopolitique. Même au sein des Français, il y a le général méchant, ou du moins froid, etc., et le général gentil pour essayer de contrecarrer. Donc il y a une volonté de non-manichéisme qui est parfois un petit peu artificielle. Mais après, c'est quand même un cinéma qui est tellement, dans l'épure, et tellement qui met tellement à distance que justement les scènes avec les enfants, par exemple, ou les scènes où ce père, un harki qui fuit les harkis à la fin, il déserte parce que justement il a trop peur de se faire voir, il retourne voir son fils dort, et il regarde son fils, on comprend que c'est la dernière fois qu'il le voit, etc. Le film est tellement... nous donne tellement peu de ces scènes-là que quand ça arrive, moi j'ai trouvé ça très fort, justement. Le fait qu'il en retienne et le film soit très court, moi j'aurais pas voulu d'un film plus long, justement, parce que le fait qu'il y ait presque cette contrainte que ce soit très court fait que il a vraiment sélectionné précisément, méticuleusement, les scènes très touchantes. Et quand ça arrive, je trouve ça en effet très fort. Ouais.
On a deux films très opposés, là, en fait. On a un biopic qui va à fond dans le truc très, très sensationnel et un truc beaucoup plus froid, beaucoup plus distanciel.
Ouais, tout à fait. Dans la forme,
vous êtes en train de dire qu'il y a une logique dans la programmation de l'émission, c'est possible, c'est peut-être. Fort. C'est voulu. Mais...